Restons debout pour la louange dans laquelle Elsa et Sophie vont nous conduire.
Merci, ô notre Dieu, pour ton esprit, souffle de vie, flamme de feu du jour de Pentecôte, ou souffle tenu pour le prophète Élie, il vient dans le monde et dans nos vies.
Merci, car il est le désir d'aimer qui nous pousse en avant et nous pousse à reprendre les combats pour la justice et la paix.
Merci, car il est en nous ta présence avec laquelle nous débattons et qui nous apaise. Merci, car il est notre persévérance et notre obstination à chercher et à crier, à croire et à espérer.
Merci, ô notre Dieu, pour ton esprit, souffle de vie, qui murmure au creux de nos vies, que nous pouvons encore aller, vivre et devenir. Amen.
Et nous poursuivons la louange avec le chant du cantique 219. Dieu de lumière, esprit de vie. Prenez place. Pentecôte, c'est la fête du don de l'Esprit de Dieu. Et c'est dans cet Esprit, par lui, grâce à lui, que quelqu'un peut ressentir dans sa vie le passage, la trace, le souffle, l'appel, la présence de Dieu. Aujourd'hui, Sophie et Elsa vont exprimer chacune à leur manière ce ressenti de leur être, tel que leurs expériences, les partages au cours des années de catéchisme et leurs propres réflexions leur permettent de le dire. Et c'est tout un cheminement qu'elles ont accompli là. Regarder, lire, écouter, faire une pause, digérer, assimiler ce qu'on a lu, entendu, reçu, prendre un peu de recul, ressentir ce qui est important, ce qui reste, ce qui tient au cœur, faire un bilan et puis envisager l'avenir devant Dieu et dans le monde. Ce que Sophie et Elsa ont fait pour aujourd'hui, chacun de nous peut le faire à différents moments de sa vie. Et avant d'entendre leurs paroles singulières et personnelles, nous entendrons la confession de foi, une confession de foi, une des expressions de la foi de l'Église qu'Elsa et Sophie vont nous dire. Et pour l'entendre, je vous invite à vous lever.
Nous croyons en Dieu qui nous appelle à œuvrer à ses côtés en vue de construire le monde et de l'améliorer un peu plus chaque jour.
Il est notre force, notre lumière, et nous avons besoin de son amour et de sa force, tout comme il agit par nos bras, notre intelligence et notre cœur.
Nous croyons que le Christ nous a montré comment regarder nos contemporains comme des frères et des sœurs et à marcher avec eux sur le chemin de la vie, de la liberté et de la joie.
Son esprit, l'esprit de Dieu, est en nous, même quand nous l'ignorons. Nous avons confiance en lui comme il nous fait tout aussi confiance.
Nous croyons que cet esprit nous renouvelle et nous régénère, nous apaise et réoriente nos pensées vers plus d'espérance et de fraternité. Ainsi, nous contemplons sa gloire. Amen.
Et nous chantons au cantique numéro 216, Saint-Esprit, Dieu de lumière, les trois strophes. Place. Nous sommes tous ici pour accompagner, entourer Elsa et Sophie. Mais plus particulièrement, je voudrais demander à Serge Tatichev, qui est catéchète, moniteur de pré-catéchisme, et qui les connaît toutes les deux. Voilà, venir à côté d'elle. Voilà, pour la mémoire et puis aussi la joie. M'approche-toi, ne reste pas derrière. La joie de ce parcours qui a duré plusieurs années, 2 ans pour Sophie, puis plus longtemps pour Elsa. 7-8 ans, ouf. Voilà. Et aujourd'hui, ce n'est pas le jour de la fin du catéchisme. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'une prise de parole personnelle et publique, solennelle, devant nous, de Sophie et d'Elsa, qui vont, à leur manière, répondre à ce qui a été, à la parole qui a été prononcée sur elles le jour de leur baptême, où elles étaient trop petites pour le comprendre, cette parole qui leur disait « Tu es mon enfant bien-aimé ». Il y en a qui trépignent d'impatience. Elsa et Sophie y répondent aujourd'hui devant nous. Et comme nous nous y étions engagés le jour de leur baptême, même si nous n'étions pas là, comme l'Église s'y est engagée, le jour de leur baptême, eh bien, c'est notre joie de les accueillir et de les écouter aujourd'hui. C'est Sophie qui va commencer.
Bonjour. J'ai eu des difficultés à écrire ce que je vais lire aujourd'hui. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je n'étais pas sûre de ce que je voulais que vous entendiez. Quand on s'exprime, ce qu'on dit a des conséquences sur les gens. C'est une chose que j'ai apprise en venant ici. J'ai choisi de lire le début de l'évangile de Jean, car il représente bien comment je ressens ma foi. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout par elle a été fait, et sans elle n'a été fait rien de ce qui existe. En elle était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Quand je viens ici, je suis vraiment heureuse de parler ou que l'on me parle. C'est une véritable lumière. Venir ici, cela réchauffe et, comme un phare, cela me permet de me repérer et de me guider. Je viens ici confirmer que j'ai envie que cette lumière brille en moi, aujourd'hui et dans l'avenir. J'aime quand on lit la Bible parce qu'elle transmet des messages sur la vie. Cette année, on a lu des textes sur le sens du mot « avec ». Et j'admets qu'au début, cela m'a fait tout drôle car je n'avais pas vraiment de gens avec qui être. Puis j'ai compris que ce n'était pas forcément avec des personnes qu'on pouvait avancer avec joie, avec altruisme ou avec Dieu. Parce que Dieu ne va pas nous blesser ou nous laisser tomber. Dieu est lumière et Jésus transmet sa parole. Je suis venue ici parce que mes parents m'avaient baptisée et que je voulais un petit peu comprendre pourquoi. J'ai trouvé bien plus qu'une réponse à ma question. J'ai grandi en venant ici.
L'Éternel te bénit et te garde en son amour. Il te connaît. Il t'accompagne sur ton chemin. Il veut pour toi la vie. Il est pour toi lumière et vie, et il les a déjà semés dans ton cœur pour que ta vie les reflète au bénéfice de ceux que tu rencontreras. Tu es bénie, Sophie. Amen.
Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque scène de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuions à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors, je me suis arrêtée et j'ai regardé en arrière. Je remarquais qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes, et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours de grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. Je l'ai donc interrogé. « Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie, et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seule au moment où j'en avais le plus besoin de toi. » Et le Seigneur répondit, « Mon fils, tu m'es tellement précieux, je t'aime. Je ne t'aurai jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. » Je ne crois pas à l'idée générale que Dieu est un gros monsieur dans les cieux que l'on représente comme un homme, mais qu'il ne l'est pas. Quand je dis être croyante, je dis croire au message de la foi, celui de l'amour et de la paix. Cette foi que j'ai reçue en héritage, comme celle de mes parents qui m'ont amenée à l'école biblique, et je la reconnais comme mienne. Celle-ci s'inscrit dans ma vie, est présente et me pousse à agir de différentes façons, à réfléchir à mes actes. Dieu, pour moi, est à la fois l'origine et le message, et Jésus-Christ nous transmet ce message. Je crois aussi que Dieu nous aime, chacun et chacune comme nous sommes. Je crois que la foi nous fait avancer dans la vie et nous encourage à ne pas regarder en arrière. Dieu nous encourage dans la vie comme dans ce texte. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. Dans les pires moments, la foi nous épaule, et dans les meilleurs, elle nous encourage, nous pousse à être bons. Je veux, plus tard, que cette foi soit présente, comme elle l'est actuellement, qu'elle impacte ma vie, même si elle me demande un effort. Je veux qu'elle soit avec moi, avec les autres, avec amour.
Il te connaît, il t'aime, il veut pour toi la vie. Il t'éclaire de sa parole, il t'anime de son esprit afin que tu vives de la vie éternelle et que tu ne craignes pas. Marche en paix sur ton chemin, il est avec toi. Amen. Approchez-vous par là, parce qu'il faut que je vous regarde, et là vous êtes derrière moi. Sophie, Elsa, il y aura d'autres étapes dans vos vies pour regarder le passé, voir combien il y avait de traces de pas, le regarder dans cette lumière particulière qui est la lumière de Dieu. Vous regarderez les hauts et les bas, les joies et les peines, et ce que vous avez reçu. Vous pourrez relire votre histoire avec l'aide des textes de la Bible et de ceux qui les liront avec vous. Et puis vous reprendrez votre route. Il y aura d'autres temps encore que celui d'aujourd'hui pour vous retrouver avec d'autres, pour relire encore ces Écritures, pour grandir encore et avancer dans la rencontre et dans la confiance, et pour faire bénéficier les personnes autour de vous des dons que vous, vous avez reçus. Et alors pourront jaillir des souhaits, des rêves, des décisions, des espoirs et un monde nouveau avec vous. Mais nous n'allons pas vous laisser repartir comme ça. De la part du foyer de l'âme, de tous ces gens qui vous ont écouté plusieurs fois dans l'année, qui vous ont entendu dire des textes de la liturgie, des prières, des confessions de foi, de la part de ces personnes qui, au moins pour Elsa, vous ont beaucoup vu grandir depuis 7-8 ans. De la part de ces personnes, de cette communauté qui est la vôtre, où vous êtes chez vous et qui espère et qui attend de vous retrouver à d'autres moments, eh bien voici un petit souvenir. Il s'agit d'un livre qui est un livre qui est clair, un livre qui peut vous accompagner tout au long de votre chemin, un livre que vous pouvez partager avec d'autres. Mais ce n'est pas une Bible, parce que vous en avez déjà une. Il s'agit du livre de notre ami Jean-Paul Augier, « Et Dieu dans tout ça ». Qui vous informera, qui vous permettra de parler, de discuter, de comprendre aussi le contenu de foi des grandes religions et la façon dont elles peuvent vivre ensemble et s'insérer dans un monde commun. Et puis il y a un petit quelque chose en plus, vous verrez ce que c'est. Donc de notre part à tous, voici pour vous. Et avec nos remerciements. Et pour Elsa, et pour Sophie, et puis pour d'autres, nous nous rassemblons dans la prière. Notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ces années de catéchisme, pour les rendez-vous, pour les questions, pour les partages, pour les découvertes. À Elsa et à Sophie, comme à tous les enfants et à tous, nous souhaitons de cheminer dans l'existence avec confiance et courage, avec amour et persévérance. Notre Dieu, tu nous invites à chercher notre propre chemin et à poser nos propres questions. Merci pour ce qui nous relie les uns aux autres, pour ce jour de fête et pour les jours plus ordinaires. Tu nous y donnes rendez-vous, là où nous sommes. Amen. Et pour Elsa et Sophie, et pour d'autres, je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 279, « Confie à Dieu ta route ». Je vous invite à vous asseoir. Avant de lire les textes qui porteront la méditation de ce jour, nous prions. Par l'Esprit qui fait naître la foi et nous rassemble dans l'Église du Christ, Éternel notre Dieu, ouvre nos esprits, afin que ta parole vienne élargir nos existences dans ta bénédiction. Amen. Nous lirons tout d'abord dans le livre des Actes, au chapitre 2, le texte de Pentecôte, du don de l'Esprit au chapitre 2, donc les versets 1 à 13. Lorsque arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu, et se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. » Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient en disant, « Ils sont pleins de vin doux. » Et puis, je vous invite à entendre, dans le premier livre de Samuel, le texte sur lequel portera particulièrement la prédication aujourd'hui. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3, les versets 1 à 11. Le jeune Samuel officiait pour l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces jours-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour qu'Élie était couché à sa place, ses yeux commençaient à s'affaiblir, il ne pouvait plus voir. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était le coffre de Dieu. L'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Il courut vers Élie et dit, « Me voici, tu m'as appelé ?» Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » Il alla donc se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla trouver Élie et dit, « Me voici, tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne s'était pas encore révélée à lui. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Celui-ci se leva, alla trouver Élie et lui dit, « Me voici, tu m'as appelé. » Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait le garçon. Élie dit à Samuel, « Va te coucher. S'il t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, ton serviteur, moi, j'écoute. » Samuel alla donc se coucher à sa place. L'Éternel vint et se tint là. Il appela comme chaque fois, « Samuel, Samuel !» Samuel répondit, « Parle, moi, ton serviteur, j'écoute. » Le jeune Samuel se lève, se tient devant Élie et dit, « Me voici. » Nous venons de voir deux jeunes filles se lever, se tenir devant nous et parler. Et leur prise de parole, c'était aussi une manière de dire « Me voici ». Me voici, moi, Elsa. Me voici, moi, Sophie. Me voici. Et c'est dans le prolongement de ces deux mots, parce que ces deux mots imprègnent sa personne et cet instant, que Samuel finit par dire à l'Éternel, « Parle, ton serviteur écoute. » Et c'est aussi parce qu'Élie a dit à Samuel qui l'appelait et comment répondre. De même, ce que Sophie et Elsa ont dit, elles l'ont dit dans l'élan d'un « me voici », même si elles n'ont pas prononcé ces deux mots. Et puis elles l'ont dit parce que d'autres personnes, depuis des années, les ont aidées, accompagnées, afin qu'elles puissent parler devant nous un jour, et ce jour, c'est aujourd'hui. Samuel ne connaissait pas l'Éternel, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de relation avec Dieu. Cela ne l'empêchait pas de savoir un certain nombre de choses, parce que Samuel servait Élie, le prêtre du sanctuaire de Silo, sanctuaire où brillait la lampe de Dieu et où était déposé le coffre de l'Éternel. Donc Samuel avait des connaissances sur le culte, les rituels, les sacrifices, mais il ne connaissait pas l'Éternel. La parole de l'Éternel ne s'était pas révélée à lui. Ce récit évoque un temps et une forme de religion où la parole de Dieu passait par l'intermédiaire des prophètes, des hommes de Dieu qui transmettaient les messages divins. Samuel sera l'un de ceux-là et l'un des plus grands. Mais il n'en est plus ainsi aujourd'hui. Ce n'est plus le temps des intermédiaires obligés, des médiateurs incontournables. Aujourd'hui, c'est le temps où chacun peut entendre la parole pour sa vie, l'entendre par l'Esprit, l'Esprit dont nous célébrons le don à Pentecôte et qui n'est pas réservé à quelques-uns. Mais le récit, ce récit de Samuel, nous aide à comprendre quelque chose de la parole qui appelle et de celui ou de celle qui répond. Samuel, Samuel. L'appel n'est pas lancé aux quatre vents. Il est adressé à une personne précise, distincte, singulière. Même si Samuel ne sait pas encore qui l'appelle, c'est bien lui, c'est vraiment lui qui est appelé. Une parole qui appelle, un nom qui se fait entendre et résonne doucement ou bruyamment. Et c'est un commencement. C'est toujours un commencement, un avènement, comme une naissance au monde et à soi. Et c'est ainsi que les textes bibliques témoignent que Dieu est pour nous Dieu en relation. Sa parole n'est pas un son perçu par les oreilles, comme lorsque quelqu'un parle. Comme Elsa et Sophie l'ont dit, et avec beaucoup plus de véhémence en séance de catéchisme qu'aujourd'hui, Dieu n'est pas un quelqu'un. La parole n'est pas un son, mais un saisissement qui survient, qui surprend. Elle est une brèche dans la pensée ou dans l'ignorance, dans les convictions ou les habitudes. Une brèche par laquelle passe un éclairage. La parole est une puissance de transformation et d'orientation vers plus de beauté et de bonté, vers un surcroît, une plénitude de vie vivante. Et à cette parole est associé le souffle, car pour parler, il faut du souffle. Nous pouvons tous faire cette expérience. Et c'est par le souffle divin que nous discernons cette parole divine et que nous la recevons. C'est le souffle qui la transmet et nous la fait comprendre. C'est le souffle qui la fait agir en nous. Dans la manière de parler de Dieu et de la foi, le souffle et la parole sont étroitement liés pour exprimer que Dieu communique et que ce qu'il communique transforme celui ou celle qui l'entend, qui le reçoit. Parole et souffle, ce sont des mots-images qui ne prétendent pas affirmer une vérité sur ce qu'est Dieu en lui-même, mais qui rendent compte de Dieu avec nous. Et sérieusement, nous ne pouvons rien dire de plus, sinon ce serait vaine spéculation. Samuel, Samuel. Et Samuel répond, « Me voici ». Deux mots en français, un seul mot en hébreu, hineni. Et c'est un des mots très importants de la Bible. Une parole humaine qui répond à un appel. Hineni, c'est une parole prononcée par Abraham et par Ésaïe, par Samuel et par Ézéchiel, par le psalmiste et par Isaac, par Jacob et par Zacharie et tant d'autres. C'est une parole incarnée par Jésus, répondant par sa vie, acte et parole, jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie et jusqu'à la perdre, répondant à la parole entendue lors de son baptême, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Inene, me voici. C'est un mot pour dire toute la densité d'une présence humaine. Je suis là, présent, je ne me cache pas, je ne fuis pas. Me voici, Inene, sans protection, sans masque, sans ambition, mais dans la simplicité et peut-être le dénuement de mon être. Inene, me voici, sans ruse ni tentative de manipulation, sans duplicité visant à se servir de Dieu à coup de sacrifices, de bonnes œuvres, de serments ou de prières. Inene, je m'avance, je m'expose et je me tiens là. Pas comme un héros ou une héroïne qui suscite l'admiration des foules, ni comme un accusé devant un tribunal, mais dans la simplicité, dans la fragilité d'un enfant. Ainsi, Elsa et Sophie se sont-elles tenues devant nous, parce qu'elles ont entendu un appel. Comment l'ont-elles attendu? Cela leur appartient. Et ce n'est pas toujours facile de dire la manière dont la parole nous a saisis, comment et quand nous nous sommes sentis appelés, concernés, convoqués, de manière à pouvoir répondre « Me voici ». Qui est une parole, un acte de présence, un geste d'être qui ne peut être imposé, sinon ce n'est pas moi que voici. Et parce que l'appel signifie que Dieu a besoin de Samuel, de Sophie et d'Elsa, et de nous. Besoin que des hommes, des femmes, des jeunes répondent à l'appel, à la parole qui surgit et qui saisit, qui les transforme et peut transformer le monde. C'est bien ce qui se passe aussi dans le récit de Pentecôte du livre des Actes. La parole de Dieu ne retentit pas dans le monde entier du haut des cieux. Elle passe par les disciples auxquels est donné le souffle, symbolisé par ces langues de feu qui se posent sur chacun d'eux. Un souffle qui les fait parler de manière à être entendu et compris par tous ceux qui sont à Jérusalem, écrit Luc. La terre entière est rassemblée à Jérusalem dans ce récit qui ouvre au récit des grandes traversées de Pierre et surtout de Paul, annonçant la bonne nouvelle à tous. Cela ne se fait pas sans nous, sans la réponse et la responsabilité libre et joyeuse de ceux qui se laissent saisir par l'appel, par la parole qui fait parler et qui répond librement et joyeusement « Me voici ». Samuel, Samuel, l'appel distingue le jeune garçon, personnellement, singulièrement, en termes religieux, cela se dit une vocation. Mais celui ou celle qui répond, toujours et seulement en son nom propre, n'est pas isolé. Il ou elle est précédé d'une vaste assemblée, celle de tous ceux qui ont déjà répondu. Aujourd'hui, nous appelons Église l'ensemble de celles et ceux qui ont été et sont appelés à travers le temps, à travers l'espace. En entendant les témoignages des évangiles, les témoignages d'autres humains, ce que Jésus de Nazareth, le Christ, révèle de Dieu. Nous appelons Église l'ensemble de ceux qui ont entendu d'une manière ou d'une autre une parole pour eux, de quelque manière que ce soit, et qui se mettent en recherche, qui se mettent à parler, à échanger, qui partagent ce qu'ils découvrent et qui transmettent des gestes et des mots. L'Église est le lieu de la multiplication des paroles, des pensées, des idées, des compréhensions, des interprétations. Et tout cela n'est pas n'importe quoi, c'est le lieu de la vie même. Ce que le récit de Pentecôte illustre, avec ses disciples qui sortent et parlent et qui sont compris de tous. Et quand le récit dit disciples, ce n'est pas seulement les 12, mais tous ceux qui étaient avec eux, et Luc un peu plus haut a donné le chiffre de 120 des femmes, des hommes et certainement des jeunes aussi. Et vous aussi, Elsa et Sophie, vous avez des paroles à transmettre, à offrir, des ouvertures, de l'horizon, un bout de chemin. L'esprit, le souffle de Pentecôte, c'est un grand mouvement, une vaste discussion rebondissant des uns aux autres, dans laquelle passe la parole, dans laquelle elle traverse, elle perce. Ceux pour qui la figure de Jésus parle de Dieu, le révèlent à leur tour en donnant à d'autres de quoi répondre à l'appel et poursuivre leur quête. Ils donnent des paroles, des expressions, des nuances pour formuler ce qui se passe en soi et ce qui passe entre nous. L'Église est un lieu de reconnaissance. Reconnaissance de la transcendance qu'on y désigne par le mot « Dieu » qui n'est pas un nom. Reconnaissance de chacun par les autres et reconnaissance, presque dans le sens de découverte, de soi. Et cela afin que chacun puisse répondre de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a saisi, de sa quête, de ce qu'il a compris et qui devient part de lui-même ou d'elle-même. L'Église de Pentecôte est le lieu, l'ensemble de ces personnes attentives aux résonances entre des paroles, celles de la Bible, celles d'autrui et les leurs, et des personnes attentives aux résonances entre ce qui est offert, ce à quoi chacun aspire et ce que chacun découvre chemin faisant. Élie finit par comprendre qui appelle Samuel. Et il lui indique de dire « Parle, Éternel, ton serviteur écoute. » Eh bien, Élie est à ce moment-là un passeur de spiritualité, un ouvreur d'esprit. Il donne des mots et des images au jeune Samuel. Peut-être est-il conscient qu'il s'agit d'un héritage, de son héritage à Samuel. Samuel ne sera pas Élie, mais en cet instant, il reprend les mots qu'Élie lui a donnés. « Parle, ton serviteur écoute. » Et c'est tout un travail, une quête spirituelle d'écouter, une quête de l'âme, du cœur, de l'esprit, de l'être, car l'écoute est une composante indispensable de la vie vivante. Écouter Dieu, écouter les autres, écouter le monde et écouter soi-même aussi. Écouter pour ne pas confondre les multiples voix qu'on entend et d'autres personnes nous y aident. Écoutez, comme le fait retentir le premier mot du décalogue, les 10 paroles de vie. Écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un. Écoutez, comme le nom de Samuel le porte, puisque Samuel signifie « Dieu écoute ». Parle, ton serviteur, écoute. Serviteur. Ce mot donné par Élie à Samuel vient autant de la position de Samuel, qui est déjà dans le temple serviteur du prêtre qui sert l'Éternel, que d'une compréhension de la relation entre Dieu et l'humain. Serviteur, le mot peut surprendre, rebuter même parfois aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de parler de la foi, de la confiance, de la relation à Dieu. Cependant, c'est aussi un mot que Jésus endosse et transmet à ses disciples, en ce que ce service ne consiste pas en une soumission muette et irresponsable, mais en une reconnaissance d'autrui comme personne porteuse d'un reflet du divin. Serviteur, c'est l'exemple que Jésus de Nazareth donne à ses disciples en leur lavant les pieds, c'est-à-dire en prenant soin d'eux et en les honorant. Il n'y a rien d'humiliant ni de dégradant à être de ces serviteurs-là, au service de l'humain, au service de chacun, au service de la divine volonté de vie. Ces serviteurs-là ne répondent pas à des ordres, ils répondent à la grâce, à l'amour, à la confiance qui leur est faite et à l'espérance qui est déposée en eux. Serviteur, c'est le mot donné à Élie, par Élie à Samuel, mais il en est d'autres pour exprimer la relation entre l'humain et Dieu. Il y a le mot enfant qui est donné, par exemple, dans la liturgie des baptêmes. Le mot disciple reçu à travers la lecture des Écritures. Le mot heureux donné par Jésus dans le discours sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu. Et d'autres mots encore, car un seul mot ne suffit pas, ne suffit jamais pour dire les merveilles de Dieu à notre égard. De même qu'Élie désigne Dieu à Samuel avec l'aide de ce qu'on appelle le tétragramme, 4 lettres hébreux qu'on ne prononce pas, qui exprime une dynamique de vie. Mais il est bien d'autres manières de le désigner ce Dieu pour lui parler ou pour parler de lui. Et chacun par héritage, par conviction, par le don du souffle divin, peut trouver le souffle de mots, d'expressions, qui ne seront pas le nom de Dieu, mais sa propre manière de le désigner. Elsa a dit aujourd'hui « origine et message ». Sophie a dit aujourd'hui « lumière ». Hineni, me voici. C'est le mot, la parole de celui ou celle qui parle. Me voici. Devant toi, Dieu, je me tiens. Devant vous, je me tiens. C'est une parole de sujet, une réponse à un appel personnel, et ce qui importe, c'est d'ainsi se présenter. Il n'est pas besoin de justifier de mérite, ni même d'une identité très définie. L'identité de celui ou de celle qui est appelé, c'est l'affaire de Dieu. Il est tout à fait possible de répondre « me voici » sans savoir exactement qui l'on est, ni qui l'on deviendra, sans attendre d'avoir construit et établi une identité. Me voici, hineni, sans description, sans précision, sans complément, sans narration supplémentaire, et cela suffit. Jésus de Nazareth n'a pas choisi ses disciples en épluchant une liasse de curriculum vitae. Un sujet se lève, sujet écoutant et sujet parlant, et qui n'est pas bloqué dans sa réponse du moment, de l'instant, car la fidélité, c'est bien autre chose que la conservation ou la crispation. Ce qui est certain, en revanche, c'est que ce sujet qui se lève en disant « Hineni » est de toute manière, toujours, un sujet qui se met en quatre. Un sujet qui se met en jeu, en tu, en il ou elle et en nous. Le jeu du sujet qui parle, le tu de la personne qui lui parle ou à qui il parle ce sujet, que ce soit Dieu ou autrui, le il ou le elle de ceux que le sujet va servir, aider, honorer et aimer, et puis le nous de ceux avec lequel celui ou celle qui parle est relié dans le souffle. Elsa, Sophie, vous avez porté ici aujourd'hui votre parole de personne, de sujet responsable. Et vous voici, chacune appelée à la porter encore et à nouveau. Et nous ici, nous vous écouterons et nous vous parlerons. Nous parlerons ensemble des merveilles de Dieu, de ce que c'est que devenir humain dans ce monde agité et incertain, de ce qui nous tient vivants et les uns avec les autres, et qui est désigné en un mot par celui d'Évangile. Et nous irons le dire encore à d'autres, nous irons le vivre parmi eux, avec eux, respirant et inspirés par le souffle de Pentecôte. Amen.
Thank you. vraiment, il est juste et bon, ô notre Dieu, de laisser ta grâce descendre en nous pour qu'elle remonte vers toi en action de grâce, par Jésus le Christ, notre frère. Quand il passait sur nos chemins, un élan le portait qui l'a conduit jusqu'au bout de l'amour. Aujourd'hui, ce même élan soulève le groupe de ses amis. Ainsi fallait-il que le Fils soit glorifié pour que le souffle de vie, largement, se répande sur les disciples et parmi les humains. Oui, le Christ est ressuscité dans la puissance du souffle, et son corps, l'Église, devient un temple édifié par ton Esprit créateur. Voilà pourquoi nos voix s'unissent, nous chantons tes dons vivifiants. Et je vous invite à chanter le cantique 231, « De toi, Seigneur, nous vient le don ».
L'Esprit de Dieu était présent et agissant. Lorsque, au dernier soir de sa vie terrestre, Jésus prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Faites cela en mémoire de moi, chaque fois que vous en boirez. Je vous invite à prier. Éternel notre Dieu, nous t'en prions. Envoie en nous et entre nous ton esprit créateur et recréateur. Par lui, donne vie à la parole qui nous fait signe dans le pain rompu et la coupe partagée. Au plus intime de nous-mêmes, que passe ton souffle de vie et que la présence du Christ vivant ouvre un chemin de lumière et de paix. Oui, nous avons besoin de ton souffle éternel pour résister aux tentations d'abandon, quand on rit autour de nous, quand on crie que rien ne sert à rien et qu'il faut être fou pour croire en toi. Nous avons besoin de ton souffle pour nous opposer à l'envie de chercher refuge dans le passé, et pour inventer à ton Église un beau visage lumineux d'accueil et de tendresse. Nous avons besoin de ton souffle pour attiser notre espérance quand la fidélité est usée, quand l'absurdité l'emporte, quand le monde semble complètement fêlé. Et pour ne pas nous résigner, pour ne pas oublier, mais apporter nos moyens, nos forces, notre prière dans les luttes contre les injustices et les discriminations. Nous avons besoin de ton souffle pour annoncer l'Évangile non seulement avec les paroles, mais aussi avec notre présence de chair et de sang sur toutes les terres de joie et de douleur de l'humanité. Nous portons dans notre prière nos proches en peine et en souci. Et au-delà de la portée de nos regards et de nos mains, nous allons en prière. Et nous y portons celles et ceux qui sont emportés par la guerre, écrasés par la misère, opprimés par toutes sortes d'idéologies de domination et de mort. Ô notre Dieu, pour vivre et pour créer, pour aimer et pour protester, nous avons besoin de ton souffle dans l'esprit et dans le cœur. Et c'est par lui que nous nous unissons pour dire ensemble à voix haute dans notre cœur la prière que le Christ, notre frère, nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici, dit le ressuscité, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Nous sommes tous invités à ce repas. À prendre part aux dons de l'Éternel, ces dons dont nous avons besoin pour vivre. Alors nous allons tous former un grand cercle dans le temple. J'invite les personnes qui sont à la tribune à descendre. Si nous sommes trop nombreux pour faire un cercle, eh bien, il y a l'allée centrale où nous pourrez aussi vous installer, vous répartir. Et si vous ne souhaitez pas participer à la scène, prendre le pain et le vin, eh bien, venez quand même dans le cercle, en signe d'humanité, en signe d'amitié. Vous serez là, avec tous. Venez, car tout est prêt. J'invite les conseillers presbytéraux à venir sur l'estrade. Amis, frères et sœurs, nous rompons le pain. Il est la communion au corps du Christ. Le Christ vivant met en nous sa vie pour que notre vie devienne ciel. Nous disons merci pour la coupe. C'est la communion au sang du Christ versé pour nous. La nouvelle alliance. Jésus-Christ fait couler sa vie en nous comme un sang nouveau, comme un vin de fête. Que notre vie devienne sienne dans l'espérance et dans l'amour.
prière d'action de grâce. Les sources de la grâce jaillissent dans tout cœur qui s'ouvre à l'action de l'Esprit de Dieu. L'Esprit nous remplit de force. Il est une aide au cœur de notre vie. Il repousse et transforme les ténèbres. Par sa lumière, nous voyons des routes nouvelles sur lesquelles marcher à la rencontre de nos frères et sœurs. Merci, ô Dieu, pour tes dons. Amen.
Gagnez vos places dans la joie du Christ vivant. Il y a des annonces à partager en ce dimanche. La collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge se tient comme tous les dimanches et la liste des produits est affichée dans l'entrée du temple. Donc vous pouvez la consulter et apporter ce qui est inscrit dessus, mais vous pouvez aussi apporter d'autres produits, bien sûr, alimentaires non périssables, produits d'hygiène et produits d'entretien. Dans la semaine qui vient, mardi 7 à 11h30, ce sera la pause spirituelle, la dernière étape, puisque nous arrivons au mois de juin, c'est donc les dernières réunions de tous les groupes. Et pour clore ce parcours sur les psaumes que nous avions commencé au début de l'année, eh bien nous écouterons notre amie Nicole Gigliotti qui en fait va nous parler des psaumes en musique évidemment et certainement nous en faire chanter. Donc voilà, c'est à 11h30 dans le temple mardi 7. Ce même mardi à 20h, ce sera le conseil presbytéral, réunion mensuelle qui consacrera une bonne partie de son temps à entendre, accueillir et à entendre les catéchètes et moniteurs d'école biblique du foyer de l'âme. Mercredi 8, je vous rappelle cet événement organisé par l'ACAT Île-de-France ici au foyer de l'âme à 19h. Il y a des affiches dans l'entrée et puis des tracts sur la table qui est une rencontre avec Antoinette Chahine, une jeune femme libanaise qui avait été condamnée à mort au Liban sur la base de faux témoignages, qui a heureusement été libérée et qui vient en France et qui pourra donc parler, expliquer ce qu'elle a vécu. Donc n'hésitez pas à venir déjà, en parler autour de vous et puis à prendre les flyers qui sont sur la table du fond où vous trouverez également l'appel du mois de l'ACAT. L'ACAT, c'est l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture et de la peine de mort, qui vous invite à prendre ce petit dépliant, à détacher la carte, à la signer et à la mettre un timbre pour envoyer à la Commission européenne en Belgique afin de soutenir deux sœurs sahraouies qui sont assignées à résidence pour leur défense des droits de l'homme et maltraitées au Maroc. Donc je vous invite à prendre la carte et à l'envoyer. C'est l'appel du mois de la CAT. Jeudi 9, ce sera la pause spirituelle de 10h30, de 12h30, pardon, de 12h30 à 13h30 dans le temple. Vendredi 10 à 19h30, le groupe Théo et Psycho poursuit sa lecture du livre de Lita Basset, Face à la perversion. Samedi 11, ce sera le groupe Ciel et Terre qui terminera également son parcours sur le thème du nom, N-O-M, à 10h30 dans la salle du second, samedi 11. Et ce sera une séance où nous échangerons autour des changements de nom dans la Bible. Dimanche 12, alors. Dimanche 12, il y a d'une part la sortie de l'école biblique du Caté pour les jeunes qui vont recevoir les renseignements dans la semaine. C'est une sortie qui aura lieu au parc floral. Parc floral du bois de Vincennes, comme le parcours était consacré au repas dans la Bible cette année, ils vont s'intéresser aux plantes qui se mangent. Donc ce sera la sortie au parc floral dimanche prochain. Et il y aura pendant ce temps, à 10h30, un culte évidemment ici, et ce sera un culte CIMAD. La CIMAD sera présente et bien présente et aura la parole par l'intermédiaire de son président Henri Masson, qui portera la prédication, et par également des témoignages de plusieurs, de quelques bénévoles qui interviendront pendant le culte, ce culte de dimanche 12 juin prochain. Et je voudrais aussi signaler, c'est un peu plus loin, mais le 19 juin, ce sera un culte musical. On essaie toujours de faire un culte musical aux alentours de la fête de la musique. Donc ce sera le dimanche 19 juin cette année avec notre ami Frédéric Rivoal, et ce sera un culte dont le thème sera la joie. Et puis le 21 juin, il y aura un concert dans le temple organisé comme tous les ans par Nicole Gigliotti, un concert de chant et orgue des œuvres de Purcell, Schubert et Fauré, avec au chant Isabelle Frémaux et à l'orgue le père Grégoire Froissart. Et puisqu'on parle de musique, il ne faut absolument pas que j'oublie la cantate cet après-midi, la cantate du mois, puisque c'est le premier dimanche du mois, à 17h30 dans ce temple, une cantate qui est coordonnée par notre ami Frédéric Rivoal. Oh, j'ai oublié Didier. Oh, j'ai oublié le ciné-club. J'ai oublié aussi les confitures, mais ça, vous les verrez en sortant. N'hésitez pas à acheter les dernières confitures de l'année avant que des nouvelles soient confectionnées.
Bonjour, bonjour. Je me rappelle ma propre confirmation. C'était ici, en mai 68. C'est une date historique. Et l'un des deux pasteurs présents ce jour-là est toujours là. Voilà, donc mercredi, c'est le cinéma du foyer de l'âme, malheureusement en même temps que la conférence sur la peine de mort. Nous avons considéré que la situation sanitaire s'améliorait et qu'on pouvait revenir donc à un rythme plus convivial, c'est-à-dire qu'à 19h, il y aura un encas partagé, tiré des sacs, comme on dit, avant la projection qui, elle, aura lieu à 19h45 ou 46. Donc le film, ce sera Le Jardin du Diable d'Henri Hathaway, qui n'est pas un film d'épouvante, mais qui est un western. Vous aurez l'affichette dans le hall. C'est un western tout à fait traditionnel dans sa dramaturgie, mais qui est très marqué par, d'abord par une morale, bien entendu, et une imagerie chrétienne, plutôt catholique d'ailleurs, très très marquante. C'est marqué par marquante, c'est trop dit. Bon, c'est très impressionnante et très inhabituelle. Voilà, donc, mardi, 19h pour l'Anka, 19h pour la projection. Vous pouvez venir à la projection après avoir déjeuné quand même, à dîner. Et que dire d'autre? Ah ben si, il y a Gary Cooper quand même dans le film, et Richard Widmark. Et c'est en couleur.
Alors, s'il n'y a plus d'annonces à partager, voici le moment de l'offrande et du soutien que vous pouvez apporter afin que le foyer de l'âme remplisse sa mission d'église, d'accueil, d'accompagnement, d'annonce de l'évangile. Et pendant cette offrande, nous nous levons pour chanter en même temps le cantique 299, qui est le cantique de Samuel, on pourrait dire. Ô, parle-moi Seigneur, ton serviteur écoute. Le 299. Nous arrivons au terme de ce culte. Après l'exhortation, nous chanterons le dernier cantique, le cantique numéro 221, les trois premières strophes. Et puis, après la bénédiction, je vous invite à vous asseoir pour écouter le dernier jeu d'orgue ou de clavecin. Quelques mots d'exhortation qui sont des mots que j'emprunte à la pasteur Francine Carillo. Ainsi donc, nous sommes rencontrés. Vivre nous arrive d'ailleurs. Il faudrait prêter plus souvent attention à cette bonne nouvelle et cesser d'aller dans nos vies comme si de rien n'était. Mais rester dans ce tremblement de l'être qui est la force des humbles et respirer le souffle. Prenons notre souffle pour chanter. Le 221, les strophes 1, 2 et 3, au Saint-Esprit, Esprit d'amour. Amis, frères et sœurs, que chaque jour demeure en vous la confiance d'être aimé par le Père, accompagné par le Christ et soutenu par le souffle, et que cette confiance vous donne l'audace de témoigner de l'Évangile par toute votre vie. Amen.